And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations, their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects, a planet in total disarray.
Order the city police officer on trial for killing Amadou Diallo, who found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
Anarchy.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of eight-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Anarchy.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In the
people have been annihilated.
Anarchy.
Declare our right on this earth.
Actors campaign for New York's vacant Senate.
Political and social.
Declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the right to be a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Dont les femmes sont l'objet, ou ce que Freud, dans plusieurs de ses textes, et en particulier dans Inhibition, Symptômes et Angoisse, désigne comme le rejet, commun aux deux sexes, de la féminité ou de la castration. Misogynie pour désigner les discriminations qui en découlent, depuis le rabaissement des femmes, couplé avec leur idéalisation jusqu'à leur assassinat. S'il est vrai que la différence des sexes informe tout principe, tout système de différence fait modèle à tout système d'opposition binaire, de domination dualiste. La haine de l'autre, qu'on appelle racisme, a tort, puisque la notion de race est très aléatoire, a peut-être, c'est une hypothèse que je vous propose, sa racine dans la haine masochiste que l'humanité entretient contre plus d'une moitié d'elle-même. Or, s'il est vrai que les races, ça n'existe pas, il existe bien deux sexes. C'est une réalité pour longtemps encore irréductible, incontournable, et le métissage que certains appellent de leur vœu et qui en effacerait les frontières, qui réduirait la dissymétrie en homogénéisant l'hétérogénéité, déboucherait sur la stérilisation puis sur l'extinction de l'espèce. L'espèce humaine est une espèce sexuée. Sa survie ou sa perpétuation dépend de cette réalité et de ce principe. Il y a deux sexes, c'est là qu'est la fécondité. Extrait de La peste misogyne d'Antoinette Fouque, tiré de l'ouvrage Il y a deux sexes.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en Ile-de-France et en direct sur www.rfpp.net partout dans le monde. Les Périphériques vous parlent, poursuivent aujourd'hui le cycle Paroles de femmes, avec une émission consacrée à la violence envers les femmes. Nous avons rencontré Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire de la violence envers les femmes, une initiative unique qui a lieu en Seine-Saint-Denis. Bonjour Madame Ronet.
Bonjour.
Vous êtes responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes. Alors j'ai envie de vous demander avant tout, est-ce que vous pourriez nous faire nous présenter brièvement l'histoire de cette lutte pour le droit des femmes.
On peut se dire que, en fait, cette histoire, la violence faite aux femmes, c'est de tout temps, en tout lieu. C'est pas une particularité du XXIe siècle. Ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est que effectivement, on a décidé de mener la lutte contre ces violences. Alors, on peut dater la période de départ vers les années 72-74. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui est sorti aux éditions des femmes qui s'appelle en 1974, « Crie moins fort, les voisins vont entendre ». Je trouve que ça dit très bien ce que sont les violences faites aux femmes à cette époque-là. Une affaire privée, la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est les années 70. Et dans ces années-là, comme vous le savez, les femmes gagnent d'un côté l'autonomie financière, puisqu'elles rentrent massivement dans le monde du travail, et de l'autre, elles gagnent la maîtrise de leur fécondité. Et ces deux choses réunies font qu'à un moment donné, eh bien, les violences faites aux femmes apparaissent comme insupportables, commencent à se dire à l'extérieur, et donc la lutte à ce moment-là commence, quand les deux droits fondamentaux, maîtrise de la fécondité, accès à l'autonomie financière, commence à être gagné. Voilà.
Et donc cet observatoire des violences envers les femmes, qui en a eu l'initiative? Pouvez-vous nous le présenter brièvement?
C'est une belle histoire, parce que c'est dans 1999, quand se discute la charte des droits fondamentaux, la charte européenne des droits fondamentaux, en France de manière générale, le Conseil général décide de créer des ateliers pour discuter des droits fondamentaux. Et qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Eh bien que les violences faites aux femmes sont la violation la plus répandue des droits fondamentaux. Et là germe l'idée d'un observatoire qui donc va naître en 2002, en fin 2002, lorsque je suis nommée chargée de mission. Et c'est le Conseil général qui prend cette décision.
D'accord. Donc le Conseil général de Seine-Saint-Denis.
De la Seine-Saint-Denis.
Combien de personnes travaillent ici?
Nous sommes quatre.
Qui sont vos partenaires? J'ai vu que vous travaillez avec beaucoup de partenaires. Quels sont le rôle des partenaires? Qui sont-ils?
Alors, dès l'origine, l'idée était que si on veut être efficace, il faut travailler en réseau. Travailler tout seul dans son coin, on n'a jamais vu que ça marchait. Surtout pas sur ce type de problématique. Donc, dès l'origine, le comité de pilotage a été constitué par les services du département. Donc, puisque c'était le Conseil général qui créait l'Observatoire, l'idée que la prunelle de nos yeux était justement les services du département, donc le service social, le service PMI, le service des crèches, le service de l'éducation, tous ceux qui dépendent du Conseil général et qui irriguent le territoire de la Seine-Saint-Denis. Deuxième élément, les services de l'État implantés dans le département, évidemment, la délégation aux droits des femmes, qui est notre partenaire privilégié. Et puis derrière, on a tout de suite, évidemment, l'inspection académique, avec donc les collèges, les écoles élémentaires, les lycées. Et on a un partenariat très fort avec la justice en Seine-Saint-Denis, c'est assez original. On a cette chance de pouvoir travailler très bien avec le parquet et le tribunal. Et puis, la police, évidemment, qui est un élément incontournable du travail qui doit se faire sur la question des violences.
D'accord.
Et puis, pardon, troisième élément, les associations, évidemment, qui, elles, ont un rôle à la fois d'aiguillon, et puis qui jouent aussi dans ce département un rôle très important pour l'accueil des femmes victimes de violences. Et puis, au fur et à mesure des années, s'est ajouté un partenaire qu'au départ, je n'aurais pas attendu, mais qui a été formidable, ce sont les villes. Et donc, sur 40 villes, nous avons 24 villes partenaires. Donc là, on est dans le gagne-terrain, c'est-à-dire, ville à ville, essayer d'arriver aux 40. Mais on voit bien que si on veut fonctionner de manière intéressante, c'est donc créer des racines, et créer des racines, c'est travailler sur l'ensemble du territoire.
D'accord. Et vous coordonnez donc tous ces partenaires vers des mêmes missions, des mêmes objectifs. Quels sont-ils ?
Alors, l'Observatoire a 4 objectifs. Le premier, c'est rendre visible ce qu'il n'est pas, les violences. Donc, une fonction d'enquête, de recherche, action, etc. Par exemple, en ce moment, on en a une en cours sur l'impact des violences faites aux femmes sur les enfants. On en a mené une enquête qui a été qui est très importante, qui est celle sur les jeunes filles victimes donc des comportements sexistes et violents. Donc dans la suite de l'enquête nationale qui avait été faite en l'an 2000 au niveau national, nous on a fait la suite sur les jeunes puisque l'enquête excluait les jeunes. Ensuite on a le deuxième élément, c'est une fois que je sais, j'ai une fonction d'alerte. Alerter l'opinion publique, alerter les décideurs, alerter les élus. Donc, par exemple, c'est le sens des marches silencieuses que nous organisons à chaque fois qu'une femme est assassinée dans les villes, en accord avec le maire de la ville, les élus de la ville, etc. Donc, on en est à 16 marches silencieuses organisées depuis 2005. Ensuite, nous avons une fonction de mutualisation des bonnes pratiques, parce qu'il se fait énormément de choses de bien. Donc on peut observer l'ampleur des dégâts, mais c'est très important d'observer aussi tout ce qui se fait de bien pour le mutualiser et permettre que ce qui se fait de bien à Bagnolet soit repris à Bobigny, etc. Et puis la dernière, c'est une fonction de proposition et de création d'outils pour lutter contre les violences. Et par exemple, pour les propositions, nous sommes à l'origine, avec la loi cadre du Collectif National Droits des Femmes, nous sommes à l'origine d'une proposition concernant l'ordonnance de protection et d'une mesure d'accompagnement protégée qui a été reprise par le Parlement et par Madame la Ministre de la Justice jeudi lors du débat parlementaire. Et pour la création d'outils, on crée des DVD, etc. Donc il y a tout un travail en profondeur qui se fait ici, à la fois innovant. L'idée, c'est que si on veut en sortir, puisque ça a toujours existé, il faut trouver autre chose, donc il faut innover. Et bien ne pas oublier d'irriguer toujours le territoire.
D'accord, donc le territoire de Seine-Saint-Denis.
Pour l'instant, nous sommes sur la Seine-Saint-Denis. Nous travaillons, on est quand même beaucoup demandé en province, donc pour des formations, etc. Donc il y a mais disons que le travail essentiel, évidemment, se pratique ici, puisque c'est le lieu de l'observatoire.
C'est un observatoire qui est unique en France ?
Qui est unique en France pour l'instant. Dans le projet de loi, il y avait un observatoire national. Moi, je pense que c'est important d'avoir un observatoire national, mais ce serait très important d'avoir des observatoires régionaux, au moins, qui permettent justement que remontent les informations au niveau national, parce que sinon, on est quand même dans quelque chose d'appauvri.
Donc, c'est quand même une initiative unique.
C'est une initiative unique, la première en France, et je pense qu'il n'y en a pas énormément dans le monde. Ce qui est original dans notre travail, c'est qu'à la fois on observe les dégâts, mais on observe aussi ce que produisent les bonnes pratiques. Et pour nous, c'est très important, parce que vous savez, quand c'est de tout temps, en tout lieu, les bras peuvent en tomber. Et la question, c'est que surtout les bras ne nous en tombent pas, et qu'au contraire, on s'encourage à penser d'abord que ça recule, que ça peut reculer. Donc on est encore dans la phase en France où il faut que les femmes dénoncent les violences dont elles sont victimes. Pour qu'elles le dénoncent, il faut qu'on les y encourage, donc qu'elles trouvent de l'aide, et c'est ça qui est le plus important. Et puis une fois qu'elles ont trouvé de l'aide pour dénoncer, il faut qu'elles soient protégées, et c'est pourquoi nous sommes très attachés à l'ordonnance de protection.
sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Des Périphériques vous parle. Nous sommes en entretien avec Ernestine Ronet, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes.
Et quelles sont ces violences dont elles sont victimes, les différentes violences recensées ?
Je vais prendre les violences dans le couple. Je vais démarrer avec ça. Donc la première, on va prendre un couple où l'histoire semble bien commencer. Donc voilà. Et assez vite, monsieur va dire à madame... Regarde la fenêtre, elle est dégueulasse. Tu sais même pas nettoyer les carreaux. Regarde la télé, il y a plein de poussière. Donc il va commencer petit à petit à la dévaloriser. Et puis, dans un couple où il n'y a pas de violence, s'il me dit ça à moi, je vais lui répondre « t'as qu'à le faire ». Bon. Quand il y a de la violence, il y a de la peur. Et donc comment s'installe la peur ? C'est par exemple, le beefsteak, il est dégueulasse s'il n'est pas assez cuit. Alors, la semaine d'après, quand je refais du beefsteak, je vais le faire plus cuit. Et il va me dire, il est dégueulasse ton beefsteak, il est beaucoup trop cuit. C'est-à-dire, quoi que je fasse, je ne fais jamais bien. Et ça, ça provoque un affaiblissement de la femme qui essaye de faire plaisir, qui essaye de faire bien et qui n'y arrive pas. Les enfants sont dehors. Pourquoi tu laisses les enfants dehors ? Ils rentrent, ils sont devant la télé. Ils sont encore devant la télé, les enfants. Vraiment, on se demande ce que tu fabriques. Donc, dévalorisation, première chose. Et injonction contradictoire, ce qui affaiblit quelqu'un. Et puis ensuite, l'isolement. Tu es encore au téléphone avec ta copine, mais tu as vu les notes de téléphone qu'on se paye. Tu ferais bien mieux de t'occuper des enfants. Tu veux aller voir ta mère, on l'a vu la semaine dernière. Tu veux aller voir ta sœur. Le beau-frère me parle tout le temps de rugby, j'en ai rien à foutre. Donc, isolement, tu veux continuer à travailler ? Mais tu t'occupes déjà si mal de la maison et des enfants. Arrête de travailler, donc vraiment isolement. Ou bien il va la chercher à la sortie du travail, il la surveille, il la contrôle. Donc ça, c'est la phase où il va travailler à son impunité. À l'extérieur, il aura l'air très gentil, ce qui fait que ma mère va me dire, quand je vais lui dire « Oh là là, il exagère, vraiment une fatigue en ce moment, mon mari », elle va me dire « T'es bien trop exigeante. » C'est-à-dire qu'il va se débrouiller pour qu'on ne me croit pas et qu'on le croit lui, qu'on se dise, donc à l'école, il va être très sympathique, partout il va être sympa, sauf à la maison. Donc ça, c'est un autre élément très important. Donc tout ça, vous entendez bien que ce sont des violences psychologiques. Et pour l'instant, vous avez entendu, j'ai parlé peut-être avec un langage relâché, mais je n'ai absolument pas dit de gros mots. Donc après vont venir effectivement les violences verbales. Donc dans les violences verbales, il y a tout ce qui concerne justement la dévalorisation de la femme, pute, salope, etc. Ça c'est un type de vocabulaire. Il y aura aussi ce qu'on dit moins, le fait que je parle de la... Je comprends pas, excuse-moi mon chéri, j'ai pas compris ce que t'as dit, mais vraiment t'es complètement idiote, tu ne comprends rien à ce que je dis. Ou bien arrête le cri. Le cri qui fait peur, le cri qui fait sursauter, vous avez sursauté.
Oui.
Donc le cri, c'est très important, parce que pour faire peur, crier, ça marche. Et je le dis en passant pour nos auditeurs, auditrices, quand on crie sur ses enfants, c'est exactement ça qu'on provoque. Et peut-être que c'est quelque chose auquel il faut penser toujours. Crier, ça a du sens. C'est évidemment fait pour faire peur. Est-ce qu'on a besoin de faire peur à son entourage ? C'est une question que je pose, mais qui me paraît extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on y repense. Bon. Donc ça, c'est ce que j'appelle les violences verbales. On va avoir la première gifle, très importante dans la vie. Cette première gifle va provoquer chez la femme à la fois beaucoup de tristesse, il a osé, et quand même souvent de la colère. Et c'est le moment où elle se dit... Faut qu'on se sépare, j'en ai marre, c'est plus possible. Et elle va peut-être reprendre tout le film de ce que je viens de dire avant. Et donc ça, c'est très important, cette première gifle. Et lui, évidemment, comme il veut garder sa proie, excuse-moi ma chérie, ça m'a échappé, je ne l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, tu m'avais quand même énervé. Retournement, déni de responsabilité. Et elle va se dire, c'est vrai, le beefsteak, il n'était pas comme ci, ou c'était pas très propre la maison, etc. Elle va se culpabiliser. Et lui, donc si elle est très énervée, il va lui offrir des bouquets de fleurs et il va lui dire « Je t'aime comme personne ne t'aimera. » Donc, d'ailleurs, au téléphone, quand il contrôle ce qu'elle fait, où elle est, c'est « Allô, ma chérie, t'es où? Tu fais quoi ?» « je t'aime ». Donc, bien sûr, on a le « je t'aime », mais en même temps, on a « allô, t'es où, tu fais quoi ?» Donc, ça, c'est un élément très important du contrôle. Le contrôle est quelque chose d'important. Dans le contrôle, il y a également retirer la carte vitale, retirer les moyens de paiement, retirer... C'est pas que pour les sans-papiers, c'est pour tout le monde. Les diplômes, etc. Évidemment, si je suis sans-papiers, il va me retirer les papiers. Mais pas seulement, on va avoir l'ensemble de cette histoire, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire une pression économique et administrative pour que je sois complètement dépendante de lui. Et puis, il y a les violences sexuelles. Dans les violences sexuelles, il y a avoir des rapports sexuels quand lui le décide. Si moi j'ai envie, ça marche pas, c'est lui qui décide. Me toucher, me regarder, etc. quand lui le décide. Et puis évidemment avec la contraception, l'IVG. C'est-à-dire, tu prends des moyens contraceptifs ou tu n'en prends pas. T'es enceinte, tu vas te faire avorter ou pas, etc. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de la sexualité du couple. Ça, c'est très important. Et puis, évidemment, les violences sexuelles, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elles existent bien sûr. La première, la plus simple, j'ai envie de dire, et celle qui est le moins repérée, c'est quand même le viol conjugal, c'est-à-dire des rapports sexuels contraints, toutes sortes de rapports sexuels, bien sûr, on est d'accord que, quel que soit le moyen de pénétration, donc ça, et puis après, la violence plus forte, contraint à regarder des images porno, contrainte à des rapports sexuels avec d'autres, devant d'autres, avec filmé, etc. Donc après, vous déclinez l'ensemble. Voilà. En gros, ce que je peux dire, j'ai parlé de la première gifle, évidemment, après viennent les coups. Ce qu'il faut savoir, c'est que la spirale est ascendante et que ça s'accélère. C'est-à-dire que les phases de rémission dont j'ai parlé, ma chérie, je t'aime, se raccourcissent pour ne plus exister. À partir du moment où la violence physique est en route, on est dans quelque chose d'extrêmement fort. Mais la violence psychologique provoque au niveau psychique des maladies, c'est-à-dire que la moitié des femmes victimes de violences dans le couple sont des femmes déprimées. Et évidemment, si je vais voir le docteur et que je lui dis je suis déprimée, il va me donner des antidépresseurs. On est bien d'accord que ça ne règle absolument pas la cause. Mieux informer les médecins permet de travailler aussi sur les causes. Et puis, les tentatives de suicide. Les femmes victimes de violences dans le couple font 25 fois plus de tentatives de suicide que le reste de la population. Donc, on n'est pas avec des choses mineures. Bien sûr, les coups, les bras cassés, les jambes cassées, etc., c'est très important. Mais la violence psychologique qui casse la personne est très importante également. C'est-à-dire que les violences conjugales, du point de vue de la santé des femmes, coûtent très, très cher. Et je ne vous parle pas des enfants qui sont derrière et qui assistent à cela.
Et quelles sont les actions? Parce que cette violence, la violence psychologique est beaucoup plus difficile à évaluer au niveau de la prévention, des choses beaucoup plus difficiles à faire. Quelles sont les actions que vous menez par rapport à cette violence psychologique?
Alors je pense que ce qui est important à comprendre, c'est l'ensemble des mécanismes de la violence psychologique étant un des éléments, comme je l'ai dit, c'est quand même un ensemble. Donc, plus on va informer les professionnels, donc on a des actions de formation avec les professionnels, très important, parce que si les professionnels qui sont chargés, et tous les professionnels, c'est-à-dire l'assistante sociale qui accueille la dame qui fait une demande de logement, si elle est bien informée, qu'elle la voit déprimée, etc., elle va pouvoir poser la question. L'assistante, le médecin qui accueille la dame pour la dépression va pouvoir travailler. L'auxiliaire de puériculture à la crèche qui voit une maman très dépressive va pouvoir poser la question et donc aider. C'est-à-dire l'ensemble, l'instit, bien sûr. Donc, plus on va avoir de professionnels formés, mieux on va pouvoir aider la dame à dire et ensuite donc à se mettre en route par rapport au fait que ça doit s'arrêter. Mais c'est très important, la formation des professionnels est pour moi le plus important. Après, il y a la formation du grand public. Vous voyez les affiches que nous avons là, qui ont été donc affichées dans toutes les 24 villes partenaires de la Seine-Saint-Denis. Donc on va avoir, si je la force, c'est un viol, tu lui parles pas comme ça, si t'es un homme, tu la traites pas comme ça, moi j'insulte pas, j'aime, etc. C'est-à-dire que on va avoir des affiches qui vont permettre que chacun se dise, tiens, insulter, c'est une violence, donc c'est des hommes, hein, pour nos auditeurs, on va dire que ce sont des têtes d'hommes plutôt jeunes, de tout genre, on va dire, de toutes origines, qui envoient des messages positifs aux autres hommes. Et ça, ces affiches ont comme effet que lorsque je mets ça à la porte de mon bureau, si je suis assistante sociale, si je suis officier de police judiciaire dans un commissariat, si je suis psychologue scolaire ou je ne sais quoi, à chaque fois, ça va permettre que les femmes se disent, tiens, ah ben, il me fait ça, oui, c'est vrai, c'est une violence. Et donc, ça va aider à dénoncer. Donc, on a encore aujourd'hui, au niveau des violences psychologiques et dans l'ensemble des mécanismes, un grand travail d'information à faire, de sensibilisation du grand public. On n'a pas fini.
Et quelles sont les statistiques ici, en Seine-Saint-Denis?
Ce sont les mêmes que dans toute la France. Mmh. C'est-à-dire que, pour l'instant, rien ne nous permet de penser que la Seine-Saint-Denis est un département plus violent que d'autres départements, puisqu'on sait que c'est, en fait, les violences faites aux femmes, c'est dans tous les milieux. Donc, ça concerne tout le monde, très simplement. Aussi bien la femme de médecin que la femme de l'ouvrier migrant, pour aller dans les deux bouts de la chaîne, si j'ose dire comme ça. Donc, d'ailleurs, quand on a fait l'enquête sur 24... fémicide, c'est-à-dire assassinat de femmes, on a constaté que les femmes travaillaient plus tôt, donc on n'était pas particulièrement avec des femmes migrantes qui ne travailleraient pas, qui étaient à la maison, etc. Donc c'est pas le profil que l'on peut peut-être imaginer. Donc je pense que c'est important de l'avoir dans la tête. Donc une femme sur 10 est victime de violences dans son couple en France. Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, on peut dire la même chose. Sur ces 1 sur 10, il y en a un tiers qui est victime de violences graves et très graves. C'est celle-là, évidemment, qui nous intéresse le plus. Et c'est celle-là pour lesquelles on fait de gros efforts pour qu'elle dépose plainte. Ce qu'il y a, par contre, en Seine-Saint-Denis, c'est qu'on a la lucidité du sujet. Et du coup, il y a eu une enquête qui a été faite par l'Observatoire national de la délinquance, qui indiquait qu'entre 2005 et 2008, il y avait 31% d'augmentation de plaintes en France, et en Seine-Saint-Denis, 87% d'augmentation, mais c'est dû à nos campagnes d'affiches, et l'Observatoire national de la délinquance le disait très clairement, c'est dû à nos campagnes d'affiches, à un meilleur accueil, au fait qu'il n'y ait qu'un seul, on est le seul département où il y a un observatoire, donc c'est dû à un travail plus précis, on va dire, mais ça n'est pas dû au fait que notre population serait davantage violente, etc. Ça n'a pas de sens.
بيشبه شعري أسود شعري طوله بعرض البحر بيشبه شعري أسود شعري طوله بعرض البحر
يا بيروت يا بيروت
كنت الدنيا علي تملي ولما تفلي اقعد انطر تاني يوم حاكي النوم كنت الدنيا علي تملي ولما تفلي اقعد انطر تاني يوم حاكي النوم ويغفى النوم وما اغفى وبذكر اني بعد بحب
sur FPP 106.3 FM dans le cycle d'émissions Paroles de femmes présentées par les périphériques vous parlent.
Par contre, j'ai une question. Effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé des sans-papiers. Comment ça se passe pour ces femmes qui sont certainement avec la même statistique une femme sur 10, si c'est une statistique générale. Comment ça se passe pour ces femmes qui n'ont pas... qui doivent avoir peur de dénoncer, qui n'ont pas les mêmes possibilités
oui.
que les femmes.
C'est vrai. C'est, pour nous, c'est quelque chose d'assez terrible. Évidemment, le fait de ne pas avoir de papier en soi, on va dire, est une difficulté énorme pour la personne. Mais évidemment, ne pas avoir de papier, l'agresseur l'utilise. Si tu vas à la police, ils vont t'arrêter. Donc, du coup, ça fait peur. Du coup, la dame se dit, il faut que je subisse des choses que je ne devrais pas subir. Donc, on a évidemment, parmi les femmes précaires, parmi les femmes sans papier, un taux plus important de violence. Et malheureusement, pour ces femmes sans papier, la question de la dénonciation est posée. En Seine-Saint-Denis, nous avons... un travail en direction de ces femmes, grâce notamment au Centre d'information des droits des femmes et de la famille, c'est-à-dire à des juristes qui reçoivent les femmes, qui les accompagnent, qui les aident à faire correctement leurs papiers, il y a la CIMADE également, pour que lorsqu'elles sont victimes de violences, elles le dénoncent. Et il y a une circulaire qui permet de dire qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du préfet, si la femme est victime de violence, on peut lui accorder des papiers. En Seine-Saint-Denis, cette circulaire est appliquée, et donc nous obtenons la régularisation de femmes sans papiers.
D'accord. Effectivement, il y a un gros travail d'information derrière, puisque la plupart des femmes ne doivent pas savoir...
Alors, il y a actuellement un débat à l'Assemblée sur la loi sur les violences faites aux femmes. Et donc la question des femmes sans papier, victimes de violences, qui pourraient voir s'accorder des papiers, est posée. Et elle est en débat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas résolue pour l'instant, On avait espéré qu'elle le soit, pour l'instant ça ne l'est pas. Donc c'est un vrai débat sur lequel il faut peser. On est en France dans un état de droit, c'est très important de le maintenir, évidemment. Et donc maintenir à chacun, chacune ses droits lorsqu'il est victime d'un délit ou d'un crime, le viol étant un crime, évidemment, est quelque chose à quoi nous sommes attachés. C'est une marque de la démocratie française qu'il ne faudrait surtout pas perdre. Donc on espère bien gagner à l'échelle de la nation française, gagner le fait que les femmes victimes de violences puissent déclarer évidemment les violences dont elles sont victimes, se voir accorder un droit de séjour d'un an renouvelable, se voir accorder lorsqu'elles sont mariées de ne pas attendre les 3 ans pour pouvoir avoir leur droit de séjour à titre personnel. Si elles sont victimes de violences, elles doivent l'avoir tout de suite. Et puis, une autre question est posée, à laquelle nous sommes également très attachés, c'est l'aide juridictionnelle pour les femmes sans papier qui sont victimes de violences. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est toujours pas acquis, mais qui est très, très, très important et que nous espérons bien gagner avec cette loi.
Et quels sont, vous dites, il y a donc un débat à l'Assemblée nationale en ce moment. Quel est le sujet de ce débat? Quelles sont pour l'instant
les avancées?
Les avancées, voilà, exactement, sur le sujet.
Alors, c'est la loi donc sur les violences faites aux femmes, contre les violences faites aux femmes. C'est une loi très importante parce qu'elle devrait nous permettre d'obtenir l'ordonnance de protection pour les femmes. C'est-à-dire que le juge des affaires familiales devra pouvoir prendre une ordonnance de protection qui permettra aux femmes d'avoir l'éviction du mari violent, d'avoir suspension éventuelle du droit de visite et d'hébergement pour les enfants, parce que c'est à ce moment-là, au moment du droit de visite et d'hébergement, souvent que monsieur agresse madame, d'avoir également des aides financières plus rapides, d'avoir donc des mesures également pour l'éviction, l'interdiction de paraître dans le quartier, voir là où habite la dame, à l'école, etc., et donc d'être protégé par la police. Donc en réalité, si on obtient cette mesure de protection, ça sera un pas très important pour la protection des femmes. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément de ce qu'apporte cette loi, c'est l'idée de la prévention. Pour nous, c'est très important aussi. La formation des professionnels. Madame la ministre de la Justice, lors du débat jeudi dernier, le 25 février, a dit qu'elle s'engageait à la formation des professionnels. Donc ça serait très important si on l'obtenait dans la réalité. Donc après, évidemment, une fois que la loi est votée, il y a toujours à se battre pour qu'elle soit appliquée. Ça, c'est évident. Mais déjà, ça change quand même la donne. Le délit de mariage forcé, hein, et de contrainte à union devrait être acquis également. Donc ça, et même si ça a lieu à l'étranger, mais si la personne réside habituellement en France, on pourra avoir du coup une meilleure prévention, hein, parce que si c'est un délit, on pourra prévenir le délit. Donc la justice pourra intervenir en amont. Et pour les femmes majeures, pour nous, c'est assez important. Donc, on devrait avoir de réelles améliorations. Cette loi n'est pas tombée du ciel. C'est d'abord les femmes qui se sont mobilisées, hein, puisqu'il y a eu 16 000 signatures. Ensuite, les députés ont repris. Et ce qui est assez joli quand même, c'est que il y a eu unanimité à l'Assemblée. Hein, c'est-à-dire que tout le monde s'est mobilisé. Donc, 2010... les violences faites aux femmes, c'est grande cause nationale. Ça commence par une loi où tout le monde est unanime. C'est pas si mal. Il y a des avancées encore à obtenir. Mais disons que pour l'instant, on sent qu'on est plutôt vers quelque chose qui progresse. Après restera l'application. Donc quand même quelques moyens en police et en justice. Parce que vous voyez, une ordonnance de protection, pour qu'elle soit prise, il faut qu'il y ait des greffiers pour notifier. Il faut qu'il y ait de l'aide juridictionnelle, donc il faut quand même un peu d'argent. Il faut qu'il y ait suffisamment de juges pour les prendre. Donc il faut vraiment que la police ait bien fait son travail, que s'il y a monsieur interdiction de paraître, maintenant ça deviendrait un délit, le fait de paraître au domicile alors qu'il a interdiction, donc on pourrait le cueillir. Mais si la police doit le cueillir, il faut qu'elle ait les moyens d'y être. Donc ça suppose quelques moyens. Donc en réalité, on sent que c'est des progrès auxquels il faudra être attentif pour la mise en application.
Thank you.
partout, en permanence, en tout lieu et en tout temps, ici, aujourd'hui, on humilie, on méprise, on vend, on bat, on viole, on inceste, on torture, on tue des petites filles, des jeunes filles, des femmes, parce qu'elles sont des femmes. On, c'est le fanatique, disait Elie Wiesel. Il faut y ajouter le misogyne. C'est un tel scandale que c'est scandaleux de l'évoquer. C'est si total que nos démocraties ne veulent rien savoir de ce totalitarisme au cœur même de leurs idéaux. C'est global, mondial, c'est une barbarie planétaire, permanente, une autodestruction organisée. Ces dernières années, les mouvements féministes n'ont cessé de rappeler que les massacres des femmes ont été fréquents et parfois massifs dans l'histoire, comme en témoignent les chasses aux sorcières dans l'Europe d'antan, l'infanticide des filles en Chine, leur inhumation vivante dans l'ancienne tradition du Wad arabe, l'incinération sur le bûcher funéraire de leur mari, des veuves indiennes, dites alors épouses fidèles. Il ne s'agit nullement là de phénomènes d'un autre âge. L'infanticide des filles revient en Chine, ainsi que leur sous-alimentation systématique dans certains pays du tiers-monde. On continue en Inde à brûler les femmes dont la dot est jugée insuffisante ou trop tardive. On sait par ailleurs que les mutilations sexuelles auxquelles sont soumises aujourd'hui en Afrique surtout des millions de femmes, excisions, infibulations, sont couramment pratiquées à Paris. Enfin, la simple existence de centres d'accueil pour femmes battues et le nombre de plaintes pour viol attestent que les violences ne sont pas non plus épargnées aux femmes des pays occidentaux industrialisés. Amnesty International a publié un fascicule accablant sur la situation des femmes dans le monde. En paix comme en guerre, le monde est un lieu de danger de mort permanent pour les femmes. Et notre siècle, qui s'attache à dénoncer tous les maux qui menacent l'humanité, destruction de la terre, des mers, des animaux, des peuples, ne se soucie toujours pas de la destruction des femmes. En France, l'Observatoire de la misogynie fait apparaître, pour la fin des années 90, à tous les niveaux économiques, politiques, idéologiques et symboliques, que les libertés et l'égalité pour les femmes sont bafouées. On tue une femme par jour en France, parce qu'elle est une femme. 362 en 1990. Mais avant que le crime n'ait été dénoncé, nommé, on lui invente des circonstances atténuantes. On déclare fous les meurtriers et donc irresponsables, article 64 du Code pénal, où on les déclare passionnés et donc excusables, peine réduite. On viole plus de 4000 femmes chaque année en France, 2 viols sur 3 sont collectifs. Aujourd'hui, la République des filles est un progrès démocratique général au regard de la République patriarcale, mais paradoxalement, les femmes font les frais de ce filiarcat où les Œdipes dérapent en bien des lieux, dans un anti-Œdipe matricide, monstricide, priapique et narcissique. Le pouvoir au bout du phallus devient le NTM, Motherfuckers des Taggers. Les jeux et les rituels machistes excluent les femmes ou les assimilent. Foot, corrida, guerre. Dans les banlieues en révolte, où règne chômage et racisme, que sait-on de la souffrance au carré des femmes immigrées, de l'exclusion internée des femmes deux fois invisibles? Et c'est le même silence que celui imposé aux déportés qui, revenant des camps, ne devaient pas parler. Et il existe un véritable seuil de tolérance pour les femmes dans le droit au travail, malgré la loi sur l'égalité professionnelle. Et les chiffres du chômage attestent la discrimination. Les femmes continuent à subir des discriminations dans l'accès au savoir, au valoir et au pouvoir. Et les femmes sont pénalisées économiquement et socialement parce que leur triple production reste déniée. Les richesses humaines qu'elles sont seules à produire, procréation, restent invisibles et non reconnues, et elles continuent d'en être pénalisées au niveau d'un travail égalitaire avec les hommes. Extrait de La peste misogyne d'Antoinette Fouque.
Cette émission a été préparée par Jovan Gilles et Marie Barbet. Nous nous retrouvons dans 2 semaines, toujours dans le cycle Paroles de femmes, pour un entretien avec Safia Lebdi, fondatrice des Insoumises. Restez à l'écoute de FPP 106.3 FM.